C'est Radio 6, numéro 1 sur la Côte d'Opale que vous écoutez, il est 7h.
Ce matin, Xavier Bertrand est l'invité exceptionnel de Radio 6.
Xavier Bertrand, invité exclusif de Radio 6 durant les 45 prochaines minutes. Le président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie va répondre aux questions d'Élise Cochin. Bonjour Élise.
Bonjour à tous. Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Xavier Bertrand, enfin Calais existe sur la carte de France. Enfin Calais est reconnu. Enfin un homme politique qui vient ici, dans la cité des six bourgeois, pour comprendre les maux de cette ville rongée par les crises migratoires, sociales et économiques. Vous, Xavier Bertrand, l'aviez promis durant votre campagne des élections régionales. Je m'occuperai de Calais et des Calaisiens. J'irai frapper aux portes des ministères, aviez-vous alors martelé. C'est chose faite. À peine 2 mois après votre élection, Xavier Bertrand, vous venez de passer une semaine à Calais pour rencontrer les acteurs du territoire, du monde portuaire aux transporteurs, en passant par les commerçants, les habitants. Car cela fait bientôt 2 ans que Calais saigne. Il y a la jungle qui est une ville dans la ville, ou plutôt un bidonville dans la ville, avec des milliers de migrants, hommes, femmes, enfants, qui vivent dans des conditions inhumaines, traités comme des marchandises par les passeurs qui sévissent encore chaque jour. Et puis, il y a les Calaisiens qui ont peur, car certains exilés sont violents. Les scènes de caillassage, bien moins nombreuses depuis quelques semaines, cela est d'ailleurs le résultat de la pression que vous exercez sur le gouvernement, Xavier Bertrand, mais nous y reviendrons. Oui, les caillassages, des voitures, des poids lourds, les prises d'assaut de la rocade portuaire, de la 16, dernièrement du port, rendent les Calaisiens hostiles aux migrants. Des centaines d'habitants ont quitté Calais ces derniers mois pour une vie apaisée ailleurs sur notre belle Côte d'Opale ou aux quatre coins de la France. Les Calaisiens souffraient déjà de cette crise sociale engendrée par la gangrène du chômage. Ils sont épuisés à bout. Et puis, les touristes ont délaissé Calais car ils ont peur. Peur d'emprunter la rocade, peur d'être agressé, car les images de prise d'assaut des camions ont fait le tour du monde. Voilà ce à quoi se résume malheureusement l'image de Calais. Alors les commerçants et les restaurateurs ferment ou enregistrent des baisses de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à moins 40%. Nous pensons aussi aux forces de l'ordre qui vivent de véritables scènes de guerre à Calais. Il y a encore quelques semaines, des centaines de grenades lacrymogènes étaient utilisées chaque nuit, parfois aussi en journée, pour repousser les assauts, les feux et autres barrages faits de briques et de brocs sur la route. CRS, gendarmes et policiers sont aussi exténués de cette tension, de cette pression et de cette absence de reconnaissance de leur travail. Même constat pour les sapeurs-pompiers qui ont enchaîné les nuits blanches. Nous, Radio 6, première radio de la Côte d'Opale avec 230 000 auditeurs par semaine, nous parlons de la réalité calaisienne depuis toujours. Cela nous a d'ailleurs valu les griefs de certains qui préféraient cacher la vérité. Une vérité qui fait mal et qui choque. Les vidéos du témoignage d'une calaisienne à bout et de la prise d'assaut du port par les migrants postées sur le Facebook de Radio 6 ont été vues des millions de fois et reprises par les médias nationaux et internationaux. Radio 6 ambitionne d'être le témoin de son territoire. Ici à Radio 6, nous aimons profondément Calais. Nous voulons que Calais renaisse, que Calais, si riche de son histoire, tant culturelle qu'industrielle, brille de nouveau. D'ailleurs, en décembre dernier, le directeur de Radio 6, si discret d'habitude, a décidé de publier une tribune dans le Huffington Post pour demander aux élus de se reprendre et d'aider les Calaisiens dans la triple crise qu'ils traversent, économique, sociale et désormais migratoire. Alors maintenant que vous êtes dans nos studios, Xavier Bertrand, votre premier bilan par rapport à votre semaine de travail et de rencontre ici à Calais.
Le premier bilan, c'est de bien comprendre que ce que vous venez de dire à l'instant, c'est l'exacte réalité. Mais avant de passer du temps à Calais, je ne pensais pas que c'était ça la réalité de Calais.
Oui.
Et vous avez tout dit. Il y a à la fois des sacrés problèmes et il y a aussi des beaux projets. Il y a des gens qui sont accueillants par nature ici à Calais, mais aujourd'hui ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Et il faut bien comprendre que si les élus ne bousculent pas les ministères, les décideurs, pour que la situation se règle, pour qu'on ait un retour à la normale. Un retour à la normale. Pas moins de problèmes, un retour à la normale.
C'est quoi un retour à la normale?
C'est de toute façon que la jungle soit démantelée. C'est clair. Je ne sais pas en combien de temps ça se fera exactement, mais il faut que la jungle soit totalement démantelée et qu'on pousse les projets qu'il y a à Calais. Si on fait pas ça, il va y avoir un drame. Un drame plus important encore. Et le pire, c'est que je sais d'expérience, j'ai été ministre, je connais le système médiatique parisien, le système politique parisien. À le jour où il y aura un drame, ah ben là, ils vont se réveiller. Eh ben, je voudrais qu'ils se réveillent avant qu'il y ait un drame. Parce que ce que je mesure aujourd'hui, c'est vraiment le fait que les Calaisiens, beaucoup d'entre eux, sont exaspérés. Et encore une fois, avant, quand j'étais loin de Calais, je parlais pas bien des problèmes de Calais. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, en prenant du temps, en passant pas en coup de vent, de mieux comprendre la réalité des sujets et des problèmes à Calais. Je continuerai tout à l'heure, vous avez parlé des commerçants. Je rencontrerai à nouveau Frédéric Van Gandbesk avec le collectif pour voir comment on doit clairement les aider. Mais encore une fois, j'ai passé l'âge d'être dans les discours, dans les incantations, tout ça. Je sais qu'on attendra des actes de la région. Et aux côtés de Natacha Bouchard, on doit apporter des solutions. À la fin du mois de février, la région prendra des mesures supplémentaires au-delà du plan, du contrat qui avait été passé entre la ville de Calais, l'État et la région. Parce que ce que j'ai compris, c'est que il suffit pas de dire ça ira mieux demain ou après-demain. Il faut aider aujourd'hui. Aujourd'hui.
Vous dites de bousculer le gouvernement. Comment vous allez faire pour le bousculer, ce gouvernement? Parce que certains ministres sont déjà venus ici à Calais. La visite était évidemment préparée. Ils n'ont certainement pas fait autant de rencontres que vous, en tout cas naturelles.
Bousculer le gouvernement, on a commencé quand même. Ça fait maintenant, je crois, un mois et demi qu'avec Natacha Bouchard, nous sommes élus à la région. On a multiplié les rencontres dans les ministères, mais pas pour les faire du tourisme à Paris. On a obtenu déjà un certain nombre de choses. Le démantèlement partiel de la jungle, même si c'est que la jungle sud pour l'instant, ça commence dès la semaine prochaine. Ça fait longtemps que c'était attendu. Ça s'est fait comme la bande des 100 mètres. Donc ça commence à bouger. Pas assez, bien sûr, on va pas se contenter de ça, mais ça commence à bouger. Le ministère de la Justice, qui était un peu aux abonnés absents, niveau national, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, Monsieur Urvoas, nous l'avons rencontré avec Natacha et avec Yann Capet également. Et il doit venir à Calais parce qu'on a besoin d'une réponse pénale. Quand il y a les forces de l'ordre, vous l'avez dit aussi, qui sont harcelées, mais qui interpellent, et que derrière il se passe rien, mais ça c'est un scandale. Donc il faut bien reconnaître que depuis maintenant 6 semaines, et on l'avait dit aussi pendant la campagne, on a obtenu l'évacuation des squads, voilà quelques mois, Saint-Pierre-Saint-Paul, ça faisait des années que ça durait. On l'a obtenu. Il y a aujourd'hui cette évacuation de la jungle sud qui commence dès lundi. La justice qui semble se mettre en place, le contrat qu'a obtenu Natacha Bouchard, tout ça, ça avance pas assez vite encore à mon goût. Et je l'avais dit pendant la campagne, et peut-être que certains vont s'habituer au fait que, bah oui, je fais ce que je dis, je lâcherai pas tant qu'il n'y aura pas eu un retour à la normale. Hier, j'étais avec l'ambassadeur d'Angleterre, ambassadeur de Grande-Bretagne, le nouvel ambassadeur. Je serai dans moins d'un mois à Londres, pour voir le ministre des Affaires européennes anglais à Londres, et pour être reçu également par les parlementaires du Kent. Parce que je veux bien montrer que on n'est pas ici face à un problème uniquement de Calais, un problème régional. C'est un problème franco-britannique. Et il faut que les Britanniques nous aident davantage, et pas seulement en finançant des clôtures ou des équipements de sécurité à Eurotunnel ou sur le port.
Justement, en parlant des Britanniques, il y aura un sommet franco-britannique le 3 mars. On en a parlé en début de semaine avec Natacha Bouchard, la maire de Calais. On lui a demandé ce qu'elle avait envie de dire avant ce sommet à François Hollande. On écoute Natacha Bouchard.
Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Que cette réunion ait lieu, c'est très bien. Que M. Hollande ne soit jamais venu à Calais, c'est dommage. Que M. Cameron ne soit jamais venu à Calais, c'est dommage. Que vont-ils se dire, ne sachant ni l'un ni l'autre ce qu'il se passe dans notre territoire? J'aurais bien aimé être associée à cette réunion, pas parce que je veux absolument être à côté de deux grands hommes politiques, mais tout simplement parce que je pense que, n'étant pas venu à Calais, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il s'y passe.
Qu'est-ce que vous lui avez dit à l'ambassadeur britannique?
Qu'il faut qu'il nous aide à régler le problème. Et moi, je l'ai indiqué. Pourquoi tous ces migrants sont à Calais? Alors, je le rappelais, les Calaisiens le savent par cœur. Ils sont jamais venus pour rester à Calais. Hein. Ils sont venus tout simplement parce que Calais-Douvres, c'est le point le plus court pour se rendre en Angleterre. Ils sont tous là parce que l'Angleterre, aujourd'hui, fait encore rêver un certain nombre de migrants. Et tant que les Anglais ne casseront pas cette attractivité pour un certain nombre de migrants, il y aura toujours le problème. Et ce que j'ai expliqué à l'ambassadeur, tant que vous ne réglerez pas ce problème, vous savez, si on réussit, nous, parce qu'on va mettre la pression à faire en sorte qu'à Calais, on n'ait plus tous ces migrants, vous aurez, vous, toujours le problème. Et ils passeront par ailleurs. En ce moment, il faut le dire, il y a un centre à Zeebruges, la fréquentation est en train d'exploser. Donc comprenez bien, monsieur l'ambassadeur, que si vous ne réglez pas ça, vous aurez le problème partout. Mais que moi, je ne lâcherai pas, excusez-moi de le dire, si le problème, demain ou après-demain, est à Zeebruges, ce que je vais dire est pas très malin. Mais c'est plus mon sujet en tant que président de région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Tant que les Anglais ne régleront pas le problème à la source, la cause du problème, ils auront le sujet. Je vais plus loin. Les Anglais viennent notamment de changer leur réglementation. Un propriétaire qui loue à un migrant, là attention, maintenant les amendes vont tomber et ça peut même aller jusqu'à de la prison. Il y a aussi un nouveau texte pour des migrants qui seraient embauchés par un chef d'entreprise, où là également il peut même y avoir la saisie du salaire, la fermeture de l'entreprise. Encore une fois, ce texte, il n'est pas encore voté, il doit l'être. La pression qui doit être mise, elle doit être mise aussi sur le gouvernement britannique pour qu'il bouge. Et j'ai toujours dit, si vous ne bougez pas, si vous ne bougez rien, alors moi je pousserai pour qu'on bouge les frontières. Parce que je sais que j'ai souvent été critiqué là-dessus, mais quand même, depuis les accords du Touquet, on est quand même, il y a quand même pas beaucoup d'endroits dans le monde où en fin de compte, on fait le boulot à la place des Anglais, en gardant une frontière à la place des Anglais sur le territoire français. Je suis pas un expert en grande géographie, mais quand même, la frontière, elle est à Douvres ou quelle est la frontière anglaise ? Elle est à Douvres. Alors pour l'instant, nous, on le fait. Mais si les Anglais ne bougent rien de leur réglementation, alors il faudra leur rendre leurs frontières. On peut dire que c'est une menace. Oui, d'accord, bien sûr. Mais une chose est certaine, c'est que la meilleure des solutions, c'est que changent leurs règles, qu'ils les appliquent. Et j'ai demandé à l'ambassadeur qu'il vienne à Calais. Il m'a dit qu'il viendrait à Calais. Pour se rendre compte aussi par lui-même et aussi pour expliquer une chose, c'est qu'il faut, et je l'ai vu cette semaine au centre Ferry, il faut aussi que les Anglais viennent expliquer aux migrants. Tous n'entendront pas, mais beaucoup entendront qu'aujourd'hui en Angleterre, on peut plus s'y installer comme le pensaient les migrants. Et il y a des membres de la Border Force qui viennent aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'ils viennent plus souvent, pour expliquer exactement la réglementation. Franchement, si 5 à 10% des migrants déjà entendent ce message, et qu'ils changent leur projet, ça sera toujours ça de prix. Comme il n'y a pas une baguette magique qui va régler 100% du problème tout de suite, eh bien oui, il faut avancer au fur et à mesure. La jungle sud, à partir de lundi. Ensuite, le démantèlement de l'ensemble de la jungle, de les dissuader, de les faire repartir vers les centres d'accueil et d'orientation ailleurs qu'à Calais. Mais attention, c'est pas pour retrouver Calais, un nouveau Calais ou un nouveau Sangatte à Grande-Synthe. Hein. C'est ma région, c'est exactement le même sujet. La région a payé un lourd fardeau à cette question des migrants pour la communauté nationale ou internationale. Maintenant, ça va bien.
Xavier Bertrand, président de région, en direct ce matin sur Radio 6. Il est 7h13. Vous dites que la région va faire des annonces fin février. Fin février, c'est la semaine prochaine.
Oui, bien sûr.
Dites-nous.
Non, attendez.
Vous avez une idée?
J'ai pas fini encore. Je suis pas celui qui vient en disant, vous savez, je vous dirai plus tard, j'ai en tête, mais c'est un secret, c'est pas ça. C'est que j'ai tout à l'heure une réunion de travail importante avec les commerçants, par exemple. Parce que c'est le boulot de qui d'aider les commerçants ici à Calais? C'est le boulot de qui, normalement? C'est le boulot de l'État. La situation, elle est causée pas du fait de la mairie. La mairie a déjà fait, vous prenez notamment Cœur de Vie, Natacha Bouchard, elle a pris des décisions importantes, intelligentes notamment, pour permettre au commerce de rester là.
Elle était seule pour l'instant à se battre,
sûr.
Vous venez de la rejoindre.
Pourquoi je fais tout ça? C'est pour aider Natacha Bouchard. Ceux qui doivent se bouger aujourd'hui, c'est l'État. Que demandent les commerçants, notamment de Calais? J'ai pas besoin d'expliquer en détail, parce qu'ici, ce sont les Calaisiens qui m'écoutent.
La baisse des charges.
Bien sûr. Ou alors un moratoire pour payer les charges. Mmh. Le chiffre d'affaires a baissé, parce qu'il y a des gens qui ne viennent plus au centre de Calais. Il y a aussi des gens des extérieurs qui m'ont dit, moi, clairement, eh ben non, on vient plus. On m'a expliqué aussi qu'ici, bien souvent dans les restaurants, on en vient parfois à sortir ou à manger comme les Anglais. C'est pas les habitudes des Anglais. C'est parce qu'on veut pas rentrer trop tard le soir. Mm-hmm. Donc sur ces questions, merci. Notamment, si le gouvernement, lui, ne fait rien sur un moratoire sur les charges, eh bien je vais voir avec Natacha pour que la région puisse aider. Pas autant qu'il le faudrait. Je suis pas l'État, je peux pas tout faire à la place de l'État. Mais moi, je vais les aider. Voilà.
Justement, on va
ils ne demandent pas un chèque, ils ne demandent pas qu'on leur fasse preuve de générosité. Ils veulent tout simplement pouvoir rester présents, vivants, garder leurs emplois et avoir de nouveaux projets. Et encore une fois, moi ce que je vais faire après ça, on a beaucoup travaillé avec le ministre de l'Intérieur. Et je vais être franc avec vous savez que je ne suis pas du même bord politique, mais lui, il est en train de vraiment comprendre ce qui se passe, mais ça peut pas reposer uniquement sur les épaules du ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Justice, il est concerné. Le ministre du Commerce, Monsieur Macron, ministre de l'Économie et des Finances, si on parle d'un moratoire.
Qui n'est pas très loin.
Faut aussi qu'il prenne le sujet à bras-le-corps. Il y a le ministre des Transports, le ferroutage. Le ferroutage, c'est un beau projet économique. Calais, le Poulou, Calais, Perpignan. Mais ça devait démarrer le 12 janvier, on est aujourd'hui le 19 février, et on n'a toujours pas de date de départ. Donc je me suis un peu énervé, ça je vous le cache pas, en disant dans les ministères, et qu'est-ce qu'il vous faut pour que ça démarre? Vous avez le ministre des Affaires européennes, le ministre des Affaires étrangères, ils font un sommet européen sur les migrants, mais ils veulent en parler clairement, concrètement, qu'ils viennent à Calais le faire. Et là, ce sera pas des réunions dans des grands bureaux, loin des réalités, qu'ils viennent à Calais pour le faire.
Et vous, comment vous allez les aider concrètement, les commerçants, puisque vous les avez déjà rencontrés, et vous allez encore les rencontrer.
Tout à l'heure à 8h. Dès que je quitte ce studio, j'ai même décalé la rencontre, elle était un peu plus tôt pour avoir encore davantage de temps. Je rencontre le collectif pour voir exactement ce qu'on veut faire. Ils me demandent avant tout d'être leur porte-parole. Auprès de la préfète, auprès du sous-préfet, auprès de l'État. Parce que le moratoire, il n'y a que l'État qui peut leur donner. Mais j'ai le sentiment que si l'État ne fait rien, il va falloir avec Natacha Bouchard qu'on fasse, comme on l'a fait d'une certaine façon déjà à la région, pour certains acteurs économiques, c'est à l'État de faire. Mais si l'État ne fait pas, moi je ne vais pas seulement leur donner une poignée de main aux commerçants calaisiens.
Ce que vous êtes venu faire cette semaine à Calais, Xavier Bertrand, en fait, vous montrez un petit peu l'exemple au gouvernement, une réunion interministérielle ici à Calais.
C'est exactement ça. Ce que je suis en train de montrer, c'est que je vais pas devenir calaisien. Je vis pas comme un calaisien. Quand j'étais là, je dormis à l'hôtel. J'ai pas mes enfants scolarisés à Calais. Donc je vais pas faire semblant d'être calaisien. Mais c'est vrai que de passer du temps, on comprend vraiment mieux les calaisiens. Vraiment mieux. Et derrière, ce que je dis au gouvernement, ce que la région a fait, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Qu'est-ce que vous attendez pour faire ici à Calais une réunion avec les ministres concernés? Il y en a 5, 6, 7, 8. Faites exactement la même chose. Et là, vous comprendrez que le ministre du Commerce rencontre le collectif de Frédéric Van Gansbeek et qu'il les entende et qu'il comprenne que s'il ne leur permet pas de traverser cette passe difficile, il n'y arrivera pas. Et puis c'est aussi, je le dis très clairement, il y a la question des commerces, il y a aussi des belles entreprises. Je veux qu'on garde de la dentelle à Calais. Pas seulement une entreprise, mais qu'il y en ait plusieurs, qu'on ait tout un pôle de la dentelle ici à Calais. Je me suis rendu dans deux entreprises qui m'avaient demandé de venir les voir.
Co-dentelle, Deseille.
Exactement. J'ai aussi indiqué chez Deseille qu'à partir du moment où il y a un investisseur, eh bien la région, elle mettra aussi de l'argent, concrètement, financera. Pourquoi? Parce que je crois à l'avenir de la dentelle et que je pense qu'il y a toujours et encore du travail et que dans cette belle région, il y a Caudry, mais il n'y a pas que Caudry, il y a Calais également. Donc j'ai rencontré beaucoup d'acteurs économiques de Calais. Il ne s'agit pas pour moi de chercher à faire le Père Noël, mais tout simplement de bien comprendre qu'ici, il y a aussi des projets et que Calais, ça a besoin d'être accompagné. Voilà un peu tout ce que j'ai essayé de faire cette semaine, avec ensuite un point important. Je ne sais pas si j'ai le temps.
Vous avez le temps.
Bon, d'accord. Parce que comme je vous voyais, je me suis dit, je suis en train de... On ne voit pas forcément derrière le micro, mais j'avais le sentiment que vous impatientiez, que j'étais trop long.
D'accord. On vous écoute. Les Calaisiens vous écoutent, les auditeurs
alors, y a un point
sont
important.
Là ce matin.
Y a un point
ils
important.
Attendent des réponses de votre part.
Il y a un point important encore. Le port de Calais. Et Eurotunnel. J'ai réussi cette semaine à les mettre tous les deux autour d'une même table.
Ce qui est très rare.
Oui, c'est très rare, mais c'est peut-être que le début. On a parlé du ferroutage, j'ai beaucoup parlé du port. La région croit à Calais. Et le projet porté par Natacha Bouchard, c'était Calais-Port 2015, porté aussi par mon prédécesseur, Daniel Percheron. Je continue ce projet, bien évidemment. Mais seulement, je veux développer le port de Calais. Et quand il y a ces images du 23 janvier, je crois, ce fameux samedi, où un ferry est pris d'assaut par des centaines de migrants, excités, poussés à bout par les no-borders qu'il faut mettre hors d'état de nuire, eh bien, moi, derrière, j'ai aussi besoin de conforter le tourisme et le transport. Le transport, on a besoin, parce que c'est du business, c'est des emplois, d'avoir le transport. Nous avions autour de la table le port de Douvres, le port de Calais. Nous avions les transporteurs français, les transporteurs britanniques, et j'avais des représentants également du Kent qui étaient là. Et ce que l'on va essayer de faire, c'est de changer l'image qu'il y a aujourd'hui à Calais, et donc pas encore une fois avec des discours et des campagnes de communication, en protégeant les chauffeurs, en protégeant aussi leur livraison, et peut-être aussi en investissant dans la sécurisation du port de Calais, encore davantage, et peut-être aussi dans des aires d'accueil sécurisées.
Pour les transporteurs.
Exactement. Parce que ce que je ne veux pas, c'est qu'un jour, on évite Calais pour pouvoir
se rendre en Angleterre.
Oui, mais il faut bien comprendre une chose. On a un atout en or. Excusez-moi de faire une la palissade. C'est que c'est ici qu'il y a l'endroit, le trajet le plus court pour passer en Angleterre. Cet atout-là, il faut pas qu'il soit cassé en se disant Calais, c'est pas sécure. Calais, ça doit être encore plus sécure. C'est donc la question des migrants en premier. Mais je pense qu'il y a des investissements à faire. On a un vrai gros travail avec Jean-Marc Puissesseau, le président du port. On travaille vraiment main dans la main. C'est la région qui est propriétaire du port. Mais toute cette question du transport, des transporteurs locaux, internationaux, c'est pour moi hyper important aussi. Je sais pas si je suis long, mais j'essaye d'être le plus concret possible parce que c'est en faisant ces réunions de travail, elle a duré plus de 3 heures. Beaucoup étaient étonnés qu'au bout de 3 quarts d'heure, on dise pas c'est terminé. J'aime bien prendre du temps, peut-être aussi parce que je suis bavard, je suis désolé.
Il est 7h21 sur Radio 6. Merci Xavier Bertrand d'être en direct avec nous. Cette information, la jungle sud sera donc démantelée à partir de lundi à Calais. Une courte page de pub et on se retrouve dans un instant. Merci d'être là.
7h29.
Ce matin, Xavier Bertrand est l'invité exceptionnel de Radio 6.
Élise.
Oui, Xavier, on est en compagnie de Xavier Bertrand, président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez annoncé tout à l'heure le démantèlement de la jungle sud à partir de lundi.
Il y a un réseau. C'est le gouvernement qui l'a indiqué. La sous-préfète avait indiqué 8 jours. Donc c'est à partir de la semaine prochaine.
Il y a un réseau qui gangrène la jungle et le Calaisie. Ce sont les New Borders.
Évidemment. Évidemment, ce sont eux qui sont à l'instigation de beaucoup d'attaques vis-à-vis des forces de l'ordre, de beaucoup d'opérations comme le ferry fin janvier. Ils sont capables de tout, bien évidemment du symbolique, la façon dont ils ont tagué la statue du général de Gaulle et de son épouse, c'est une honte absolue.
Nique la France sur la statue du général de Gaulle.
Ils doivent être mis hors d'état de nuire. Eux, ils n'ont rien à faire à Calais. Il faut vraiment les sortir de Calais. Et moi, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, qu'on mette tout en œuvre. J'ai d'ailleurs obtenu qu'il y ait maintenant, on l'avait demandé avec Natacha Bouchard, qu'il y ait des contrôles d'identité aux entrées et sorties de la lande, parce que je me suis fait expliquer aussi comment ils rentraient, les No Borders, dans la jungle. Et comment, à partir de cela, ce sont eux qui poussaient certains migrants, pas tous, à se jeter sur les forces de l'ordre. Dimanche, il y a de ça 3 semaines, je crois, il y a eu une attaque violente en plusieurs points contre les CRS. Je revenais du Touquet, j'étais avec vous au Touquet dans la matinée. Je revenais du Touquet, je me suis arrêté pour rencontrer notamment les CRS. Ils m'ont expliqué, ce sont les No Borders qui étaient derrière et qui criaient « attaquez-les, chargez-les ». Moi, ça me suffit, cette préméditation, cette incitation à la violence, pour qu'il y ait une action judiciaire très dure et très forte derrière. C'est pour ça que le rôle de la justice est aussi un rôle clé. Vous pouvez pas avoir ce qui s'est passé sur le port, avec le ferry, et où, en définitive, la justice dit, bah voilà, ils sont montés à bord d'un ferry sans payer de ticket, donc c'est du cabotage, on va incriminer ça, ils vont avoir une amende. Ça va, quoi. Ça va. Ceux qui sont rentrés sur le port, il y a préméditation. Il y a escalade ou il y a effraction. Ce sont des circonstances aggravantes. C'est donc de la prison. Et attention, quand il y a de la prison et qu'on n'a pas les titres pour rester en France, c'est l'expulsion du territoire.
Sauf qu'il n'y a toujours pas de jugement.
Et c'est pour ça aussi que j'attends que le ministre de la Justice fasse exactement ce qu'il nous a dit, qu'il vienne, qu'il demande des réquisitions fortes et qu'il y ait des condamnations fortes. Pour beaucoup de migrants, pas tous encore une fois, mais ils peuvent essayer 10 fois, 100 fois de s'introduire dans le tunnel, même si c'est beaucoup plus compliqué, de s'introduire sur le port ou dans un camion. Ils savent pertinemment qu'il leur arrivera rien. Parce qu'ils peuvent recommencer, il n'y aura pas de condamnation. S'il y a la menace d'être expulsé du territoire, c'est pas la même chose. Je sais que certains vont me dire, ils peuvent revenir. Mais je me suis aussi fait expliquer, c'est que ça leur coûte des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, quand ce sont des filières de passeurs. Et encore une fois, c'est de montrer qu'on ne pourra plus venir et rester à Calais, comme ça a été le cas pendant trop longtemps.
Des migrants, il y en a maintenant un peu partout sur la côte d'Opale. Vous savez qu'il y a le camp de Grande-Synthe, évidemment. On parle de justice. 7 habitants du Dunkerquois soupçonnés d'être des passeurs vont être jugés aujourd'hui. Le réseau a été démantelé en début de semaine. Ils demandaient à ces migrants entre 5 et 10 000 euros pour passer.
Ce que les migrants m'ont expliqué, oui. J'en ai rencontré certains à qui on a demandé jusque 12 000 euros, 7 000 euros pour certains. Alors, avec l'ensemble de leur parcours, il y a aussi un point qu'il faut savoir. C'est qu'il y en a quand même aujourd'hui qui arrivent à passer.
Oui,
et comment ils arrivent à passer? Je me suis aussi fait expliquer. bien souvent dans des camionnettes ou dans des gros monospaces avec des caches aménagées, des fonds aménagés. Et pour cela, il faut bien le dire, c'est plus la question du tunnel, c'est plus seulement la question du port, c'est vraiment les filières qu'il faut démanteler. Ce que j'ai demandé à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, c'est qu'il y ait toute cette coordination, pas seulement à Calais, c'est le cas maintenant, mais qu'il y ait une coordination entre les deux gouvernements pour qu'on mette hors d'état de nuire le passeur, mais pas avec des petites sanctions.
Il va falloir
que vraiment que ça tape fort.
Et vraiment envie fort. De travailler avec bien la sûr. France. C'est mais pas on... forcément gagné. Ça fait des années que ça dure.
Ouais, mais là, je pense, à force de mettre de la pression, ce que j'avais dit en juillet dernier, en menaçant de dénoncer les accords du Touquet, ça devient un sujet politique en Angleterre. Regardez, M. Cameron a dit, s'il y a le Brexit, on aura un camp comme la jungle de Calais, ici, en Angleterre. Alors, je sais qu'il s'en sert pour son référendum, mais ça montre une chose, c'est qu'ils ont bien compris que le sujet pouvait pas rester en l'état. Mais encore une fois, ça va prendre du temps, mais moi, je ne lâcherai pas. Alors, je sais qu'il y en a certains qui doivent se dire, mais pourquoi il vient là? Est-ce que c'est de la com ou pas? À quoi ça sert? Ben, je ferais juste remarquer que ces contrôles d'identité, l'expulsion de la jungle sud, la façon dont aujourd'hui on parle de Calais aussi pour régler les problèmes, on peut penser ce qu'on veut, mais toujours est-il que c'est peut-être pas seulement une coïncidence, c'est peut-être aussi parce que je mets la pression sur ce dossier et que je ne lâcherai pas ce dossier.
Les auditeurs, les Français sont pour beaucoup désabusés par les hommes politiques. Vous venez de le dire, quand on a publié sur notre Facebook votre venue ce matin, dans les commentaires, est-ce brouf, c'est du pipeau, encore un homme politique qui va faire des promesses en l'air. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour essayer de les convaincre?
Je vais pas chercher à les convaincre avec des discours. Si je suis là pendant une semaine, je suis arrivé vendredi dernier, j'ai fait un aller-retour notamment à Paris pour voir l'ambassadeur, je suis de retour ce matin, très clairement, si c'était pour faire des esbroufs, j'aurais fait un petit tour comme d'habitude, entouré par 50 caméras. Là, je suis venu vous voir
comme
ce matin,
les ministres.
Voir ce matin, vous avez vu, pas de journalistes, pas de caravane de journalistes qui m'accompagnent, parce qu'ici, il faut prendre du temps pour comprendre. Il y en a qui disent de l'esbrouf, il y en a aussi, c'est pas mes amis, hein, je le sais bien.
Oui.
Il y en a qui n'aiment pas ce que je fais, parce que moi, je viens pas pour faire un grand cinéma. Moi, je ne suis pas là pour dire, comme, excusez-moi, dans la campagne électorale, Madame Le Pen qui avait dit entre les deux tours, bah non, le président de région, il peut rien faire. Eh ben, moi, je dis qu'il peut faire le président de région. Et que même s'il a pas de baguette magique, il est là pour se bouger et pour bouger les choses.
Et qu'est-ce que peut faire le président de région pour les Calaisiens, qui sont au chômage, des records de chômage à Calais? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que président de région?
Déjà, la première des choses, c'est de faire en sorte qu'il y en ait pas plus. Quand je viens dans des entreprises de textile pour trouver des solutions et sortir de l'argent de la région, c'est déjà pour maintenir les emplois. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est pour qu'il y ait de nouveaux emplois. L'idée de financer, notamment d'aider au financement, les études pour Heroic Land, pour ce parc, que ce soit un projet d'aréna, centre de congrès, pour faire venir de l'activité, ça c'est aussi la région, l'argent de la région, c'est du concret.
Vous confirmez? Mais,
bien sûr, bien
la
sûr.
La région pourrait confirmer, financer 80% de l'aréna à Calais.
De l'aréna, d'une aréna qui serait sur une base de 15 millions d'euros, payée par la région, gérée ensuite, soit par la ville, soit par l'intercommunalité. C'est le souhait de Natacha Bouchard, c'est un beau projet qu'elle a, Natacha, et la région, parce que c'est mon idée sur l'ensemble de la région, ici il y a un besoin, alors on sera prêt justement à financer ce projet parmi les premiers projets. Ça donnera du travail pendant les travaux, mais ça donnera aussi du travail après les travaux. Et puis après, j'ai aussi autre chose, Proche Emploi, je me rendrai dans la journée sur le site de Proche Emploi ici, où on essaye de mettre en relation les demandeurs d'emploi qui nous ont sollicités, les entreprises qui ont du mal à recruter, parce qu'en général, entre les deux, il manque quelque chose, la formation. Qui paye la formation? La région. Alors je fais quelque chose, un circuit court, hyper rapide, pour qu'on puisse mettre les gens en formation parce qu'il y a des débouchés, pas dans 6 mois ou dans 1 an, mais dès maintenant, dans les semaines qui viennent. Là aussi, je serais critiqué. C'est normal, parce que comme on va peut-être pas trouver une solution tout de suite pour 100% des gens, certains diront, ben c'est quoi le truc de Bertrand? C'est de l'esbrouf ou pas? Non, moi, j'essaye de trouver des solutions, et je préfère prendre des risques en faisant des choses qui n'étaient pas prévues auparavant. Mais s'il y a une personne, qui trouvait un emploi avec Proche Emploi, ça valait la peine de le faire. Mais je peux vous dire qu'il n'y en a pas qu'une déjà.
Vous avez des exemples concrets?
Mais bien sûr, j'ai des exemples concrets. J'ai des chefs d'entreprise qui nous ont sollicités, à qui on a trouvé déjà des personnes. J'en connais notamment qui sont déjà rentrés en CDI. Je publierai le bilan. Mais vous inquiétez pas, je serai quand même critiqué parce que on dira que ça va pas assez vite et tout ça. Mais moi, je ne dis pas qu'on a tout essayé contre le chômage. Moi, j'essaye des choses nouvelles parce que je crois au terrain et j'entends le message de ces demandeurs d'emploi qui disent on sait qu'il y a des emplois, mais il faut la formation, c'est compliqué, on n'a pas les réponses. Et des chefs d'entreprise qui disent moi, aujourd'hui, je cherche et je ne trouve pas. C'est les deux en même temps qu'il faut rapprocher. C'est le rôle de Proche Emploi, c'est le boulot de la région.
Des nouvelles filières de formation ?
Oui, également le numérique. Ici, la mairie, Natacha, a des idées sur le numérique, une maison du numérique, parce que c'est aussi les emplois de demain. Et là, encore, peut-être que par rapport au projet de territoire qui était prévu, peut-être que la région doit faire davantage et peut-être plus vite, je crois. Les projets d'Arena, les projets d'Heroic Land, on le voit bien, ce sont des projets qui peuvent sortir de terre, pas dans quelques mois, peut-être même dans quelques années, mais tout ça se prépare. Mais j'ai compris qu'ici, il fallait agir dans les semaines qui viennent. Pas dans quelques mois, dans les semaines qui viennent.
Il faut aller vite.
Oui.
Il paraît que vos collaborateurs vous surnomment le président Duracell.
Oui. Écoutez, j'aime bien, moi, les lapins Duracell. Je vois d'ailleurs, les auditeurs peuvent pas voir, ils sont en train de se marrer, là. Donc, je sais qui a dû dire ça. Non, c'est parce que le temps politique doit comprendre qu'il faut aller vite. Dans une entreprise, dans la vie, faut pas tarder. En politique, on se disait longtemps, un peu pépère, un peu notable, que, allez, on prend son temps. Non, le temps politique doit comprendre qu'il faut aller vite.
Vous avez passé ici une semaine à Calais. Les annonces, vous allez les faire, vous en avez déjà faites quelques-unes. Le démantèlement de la jungle qui débutera lundi, confirmé par l'État, des nouvelles filières de formation qui sont mises en place. Vous demandez aussi au gouvernement de venir ici pour faire une réunion interministérielle.
Et là, encore une fois, c'est pas pour faire de l'esbrouf, c'est tout simplement pour qu'ils comprennent. Quand on vient à Calais, quand on y passe du temps, on n'a plus le même regard sur Calais. Et on comprend aussi la réalité de Calais. Il y a des problèmes à Calais, mais il y a des projets. Et ces projets, il faut les aider. Pas seulement en signant un contrat de territoire, mais en étant hyper concret. C'est ça qu'il faut. Il y a aussi des beaux projets sur le Calaisis pour développer le tourisme. On le sait bien. Il y a des projets, alors ça peut faire sourire certains, mais projets de golf à côté de Calais. C'est ce qui permet aussi d'attirer toute une clientèle qui a des moyens et qui en ferait profiter l'économie du Calaisis.
À Blériot-Sangatte.
Je vois ce midi notamment les hôteliers restaurateurs. Certains hôteliers ont des chambres d'hôtel qui sont utilisées par les forces de l'ordre. Mais ce qu'ils veulent, ce sont des touristes qui consomment. C'est ça aussi qui m'intéresse. Et là encore, ce que je vais voir avec eux, comment la région peut les aider aux côtés de la mairie.
Vous l'avez dit tout à l'heure, après cet entretien, vous allez rencontrer les commerçants calaisiens. Qu'est-ce que vous allez leur dire concrètement ? Qu'est-ce que vous allez leur proposer ?
Vous m'avez posé déjà la question trois fois.
Je vous la repose.
C'est moi qui vais commencer en disant qu'est-ce que la région peut faire concrètement pour vous ? C'est la question que j'ai posée à différentes entreprises, c'est la question que je vais reposer, vous pouvez m'accompagner. Concrètement, c'est ce que je vais leur demander. Ce qu'ils m'ont dit pour l'instant, c'est « aidez-nous à obtenir le moratoire ». Et donc, en définitive, ils me demandent d'être un peu un porte-parole, j'entends. Mais si l'État ne se bouge pas, je repose ma question, qu'est-ce que l'État peut faire ? Est-ce que c'est une sorte de fonds tampon pour faire des avances sur un grand nombre de mois pour les aider dans leur trésorerie ? Parce qu'il y en a certains qui ont des bonnes affaires, des belles affaires, mais comme il y a moins de clients, il y a moins de chiffre d'affaires, il y a moins d'argent qui rentre, mais il y a toujours autant d'argent qui sort avec les charges. Et donc, est-ce que la région peut jouer ce rôle ? J'attends qu'ils me disent si ça sert à quelque chose ou pas. Mais eux, leur meilleure réponse, c'est le moratoire. Le moratoire, c'est l'État. Président de région, aidez-nous à obtenir ce moratoire de l'État. Mais là, encore une fois, c'est un peu me faire l'avocat des commerçants. Est-ce que je peux pas être plus concret ? Ça va être à eux de me le dire, moi je suis prêt à l'être.
Et la région peut mettre en place ce fonds tampon ?
Oui, bien sûr. On a la compétence économique. Ça ne réglera pas tout. C'est d'une certaine façon, excusez-moi, ce qu'on a fait au niveau régional avec les éleveurs dans la région. C'est pas le boulot de la région normalement, c'est le boulot de l'État. Mais l'État ne se bougeait pas, n'intervenait pas. Et donc, en définitive, ce que je peux faire vient en plus. Mais c'est aussi pour dire, si la région le fait, qu'est-ce que vous attendez l'État pour le faire ?
Xavier Bertrand, vous allez vous rendre dans les autres territoires de la Côte d'Opale, le Dunkerquois, le Boulonnais, le Montreuillois d'ailleurs. Avec la fusion des régions, le Montreuillois n'est plus au bout de la région Nord-Pas-de-Calais. Parce que quand on parle de Côte d'Opale, on dit souvent Dunkerque-Calais-Boulogne. Rien sur Montreuil. Alors qu'il y a le Touquet, il y a Berck.
J'ai le droit aussi de parler de ma Picardie ?
Vous avez le droit aussi.
D'accord, parce que je viens de la Picardie, c'est la même région.
On est jusqu'en baie de Somme et on passe bonjour à nos auditeurs picards.
Voilà, non, mais parce que, oui, d'ailleurs, il y a tout un territoire qui n'a pas les mêmes difficultés, mais qui a aussi les craintes avec la fusion. C'est Amiens, tout l'Amiénois. Je l'ai indiqué, ça sera pas Lille et le désert autour. Ma conception de la région, ça peut pas être l'île des Zéro-Tours, ça va être tous les territoires, et à partir du mois de mars, je vais passer encore davantage de temps, mais un peu en immersion sur un territoire. Peut-être pas aussi longtemps que ce que j'ai fait cette semaine, de vendredi dernier à vendredi soir. D'ailleurs, je reviendrai également en mars à Calais pour confirmer des nouvelles orientations, mais je vais plus loin. On a beaucoup parlé de moi et Natacha Bouchard. Les vice-présidents qui sont venus la semaine dernière, chacun dans leur domaine de compétences, chacun, ont pu voir les problèmes du Calaisis et les projets à pousser. Monique Rio, notamment, la vice-présidente en charge des hôpitaux, elle a passé plusieurs heures à l'hôpital de Calais. Je l'avais déjà fait il y a quelques semaines pour voir quels sont les messages que je dois passer à l'agence régionale de santé.
L'hôpital de Calais qui est submergé de travail, notamment aux urgences.
Exactement. De la même façon, François de Coster pour la culture, Valérie Létard pour le contrat de territoire. Comment on fait pour chacun dans notre domaine de compétences aider davantage Calais. Sur tous ces sujets-là, ce sont des réponses concrètes. Alors, il n'y a pas non plus que Calais, mais Calais, c'est quand même l'image. Parce qu'on n'a pas aidé suffisamment la mairie et les Calaisiens, les problèmes sont devenus de plus en plus importants. Ma vraie crainte, c'est qu'ici, les gens baissent les bras. Ma vraie crainte, c'est qu'ici, un jour, on ait un drame. À cause d'une jungle, si on ne va pas jusqu'au démantèlement, il faut aller jusqu'au démantèlement.
Total.
Et je l'ai dit aussi, c'est vrai que cette semaine, Alain Juppé est revenu à Calais, il souhaitait me voir, je lui ai dit, moi je suis à Calais, je bouge pas de Calais, il est revenu. Lui s'est engagé, déjà, clairement, à ce qu'il y ait une renégociation des accords du Touquet, et je vous le dis, ça prendra le temps qu'il faudra, mais moi je me battrai pour obtenir le démantèlement total, et si on me prête du poids avec le gouvernement actuel, avec ceux qui seront candidats à la présidentielle, je peux vous dire que je lâcherai pas.
Justement, vous venez de parler d'Alain Juppé. Qu'est-ce que vous pensez des derniers épisodes des Républicains? Alors, la mise en examen de Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé qui se présente à la primaire, et puis l'élection de Luc Chatel, secrétaire général des Républicains, devant Michel Alliot-Marie. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Ce que j'en pense?
Oui.
Rien du tout. Ça m'intéresse plus. Je suis de la famille politique des Républicains. Moi, je suis gaulliste, je viens du gaullisme. Mais aujourd'hui, vous savez, je suis sorti de la primaire pour me consacrer à la région. C'est pas pour y revenir en commentant ce qui se passe et en ajoutant une petite phrase à tout ça. J'aurais tout simplement que chacun se rende bien compte que, avant de penser à son ambition politique, moi aussi j'ai de l'ambition politique, il faut tout simplement aujourd'hui déjà s'occuper de ce qu'on a à faire et de s'occuper des gens et de s'occuper des problèmes des territoires. Parce que moi, j'ai bien vu ici ce qui s'est passé. Et d'une certaine façon, le score sur Calais du premier tour, je l'oublie pas.
Du Front National.
Bien sûr. Mais pourquoi les gens votent Front National? Quelqu'un m'a dit une fois, mais on n'est pas pour le Front National, on est contre vous les politiciens. Les gens croient encore en la politique, mais ils détestent leurs politiciens nationaux. Et ce message que j'ai compris, vous savez, le deuxième tour, moi, il efface pas le premier tour. Et je mesure que d'une certaine façon, c'est un peu une dernière chance qui nous a été donnée, qui m'est donnée, moi aussi, de faire mes preuves. Alors, cette dernière chance, je vais pas la gâcher. C'est vrai que je ne travaille pas comme travaillaient auparavant certainement les présidents de région, mais pas seulement ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Mais je sais qu'il faut être sur le terrain. Et puis surtout, c'est pas parce que je viens que ça changera quoi que ce soit. C'est peut-être parce qu'on prendra de bonnes décisions qu'on pourra avoir des résultats.
Mais c'est sûrement la première fois qu'un président de région passe autant de temps sur le terrain, une semaine.
Mais passer du temps ne suffit pas.
Rencontrer.
Derrière, faut des décisions.
Exact.
Derrière, faut que je fasse pression et que ça bouge. Ce que les gens demandent, c'est pas de réserver un bon accueil ou un accueil tiède. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est de savoir si derrière, par les décisions qu'on va prendre, on va aider davantage Calais et les Calaisiens. Il y a que ça de concret.
On rappelle les annonces que vous avez faites ces dernières 45 minutes sur Radio 6, Xavier Bertrand. On rappelle qu'il y aura le démantèlement à partir de lundi de la jungle, décidé par l'État, hein, grâce à votre pression, notamment.
Et Natacha Bouchard également, et tout le monde, je le dis en plus aussi, il y a, vous savez, les différences politiques, le député, la maire, on est toujours ensemble.
Député Yann Capé.
Parce qu'encore une fois, c'est une question d'intérêt général. Et la petite politique, elle retrouvera bien un jour ses droits, et bien le plus tard possible.
Vous demandez aussi une réunion interministérielle exceptionnelle ici à Calais pour que les ministres viennent découvrir cette belle ville et
qu'ils apportent
enfin
des réponses.
Et qu'ils apportent
le moratoire,
réponses.
C'est l'État qui doit le donner. Faut que le ministre du Commerce, de l'Économie vienne ici à Calais.
Et donc on attend des annonces concrètes pour le Calaisis dès la fin de la semaine prochaine.
En ce qui nous concerne, oui, je vais pas dire dès la fin de la semaine prochaine, attention.
Février.
Ouais, voilà, à la fin du mois. Non, mais c'est pas une question de jour, mais on va aussi faire quelque chose de sérieux. Je veux faire quelque chose de sérieux et de solide. Je veux pas juste dire et puis après il se passe rien. Je suis un peu obsédé par l'emploi, vous le savez, mais aussi par le suivi des choses. Mm-hmm. Donc si j'annonce, c'est qu'on fera.
Vous pouvez venir pour annoncer et pour faire. Vous êtes le bienvenu chez Radio 6.
Merci.
Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous ce matin pour cette émission spéciale consacrée aux Calaisies. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude tout à l'heure pour le journal de 8h avec plaisir.